affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Aujourd'hui, nous allons vous emmener dans le musée de la préfecture de police de Paris. Nous allons découvrir son histoire qui, bien entendu, se confond avec l'histoire de France. La grande histoire, bien sûr, celle des révolutions, des coups d'État, des changements de régime, mais aussi la petite histoire, celle des mœurs, celle des individus. En quelque sorte, le musée et les archives de la préfecture de police de Paris, c'est à la fois l'histoire à la Michelet et celle de l'école des Annales. Pour nous guider dans ces archives, nous avons heureusement un guide d'exception en la personne de Jean Tullard, qui a récemment publié un recueil d'articles écrits par Hélène Tullard, sa propre mère, qui de 1944 à 1970 a été conservatrice des archives et du musée de la préfecture de police, le fameux donc musée du crime. Monsieur, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité.
Alors tout le monde ne connaît pas ce fameux musée et son histoire pleine de rebondissements. Pouvez-vous commencer par nous le présenter ? Après tout, il n'est pas évident qu'une institution telle que la préfecture de police crée un musée.
Oui, alors nous remontons, disons, à 1952. C'est à partir de là que ce musée, qui était plus ancien, nous y reviendrons, commence à être connu. Relativement connu. Pourquoi ? Parce que ce musée se trouve au sixième étage du 36 quai des Orfèvres, siège de la police judiciaire. Pour y accéder, vous devez emprunter un escalier fameux qui a été immortalisé par Georges-Henri Clouzot dans le fameux film « Quai des Orfèvres ». Dans cet escalier, vous croisez des malfrats menottes aux mains avec des inspecteurs qui les entourent, les malfrats mieux habillés d'ailleurs que les inspecteurs, comme il se doit, et comme il se doit aussi dans le film de Clouzot. Vous partez du bas. Où, à côté de la première rampe, il y a ce qu'on appelle la cage aux filles, c'est-à-dire les prostituées qui ont été raflées dans la nuit et qui sont là et qui vous accueillent en vous disant « t'as pas une clope, je te montrerai mon... » censuré. Et vous prenez l'escalier, vous le montez et vous arrivez au sixième devant une porte, très modeste, avec une plaque « musée ». Vous poussez la porte et vous vous trouvez face à un mannequin qui lève un poignard dans votre direction. C'est dire l'ambiance. C'est dire que ce musée, évidemment, les gens n'y vont pas parce qu'il faut traverser la police judiciaire. Il est au-dessus de la police judiciaire et il est d'ailleurs alimenté, pour certaines pièces, par la police judiciaire elle-même. En sorte que... Nous reviendrons sur ses origines. Jusqu'en 1945, le dernier conservateur avant, Louis-Léon Martin, a été épuré fâcheusement en 1944. Et donc, c'est Hélène Tullard, administrateur civil à la préfecture de police, qui avait été avant professeur d'anglais, qui se voit nommée là et qui se rend compte que c'est un fouillis inextricable. On a en fait de musées entassés des objets les plus divers dans les vitrines plus ou moins en état et elle obtient du préfet de police des crédits pour en faire un musée acceptable, un véritable musée. Et ce musée donc sera repris forme véritablement en 1952. Auparavant, pratiquement, on ne le visitait pas. Désormais, ce musée va attirer beaucoup de gens, beaucoup de célébrités. C'est un passage obligé quand vous allez à la police judiciaire et que vous êtes spécialiste du roman policier. C'est ainsi que l'un des clients de ce musée sera Georges Simenon, habitué de la police judiciaire et où l'on montrait jadis, et l'on montre encore, avant le déménagement, son bureau, le bureau du commissaire Maigret. Et le visitant, j'avais fait remarquer que ça ne pouvait pas être le bureau du commissaire Maigret, car il y avait un panneau interdit de fumer. Alors, nous savons que le commissaire Maigret fumait la pipe à tout moment. Donc, et Georges Simenon, Léo Mallet, le père de Nestor Burma et de l'agence Fiat Lux. Il y a eu aussi Eddie Constantine, il y a eu James Bond, Sean Connery. Enfin, toutes les célébrités du roman et du film policier sont passées là. Le public, beaucoup moins, mais malgré tout, un public, car le musée avait également dans le prolongement les archives de la préfecture de police. Et donc, ma mère a été la première à attirer l'attention sur ces archives. Et donc, beaucoup d'historiens, on pourrait citer encore dans cette maison Pierre Nora, on pourrait citer Raoul Girardet, etc., sont venus faire leur thèse aux archives de la préfecture de police. Donc, à partir de 1952, ce musée va commencer à avoir une réputation, on va en parler, parce que le crime fascine. Et finalement, lorsque ma mère partira à la retraite en 1971, eh bien, la police judiciaire, qui n'attendait que son départ à la retraite pour s'emparer des locaux, car ils étaient très à l'étroit, a chassé en quelque sorte le musée de la préfecture de police, l'a chassé avec les archives, et le musée actuel est situé dans le 5e arrondissement, c'est le commissariat du 5e arrondissement, rue de la Montagne, Sainte-Geneviève. Mais ce n'est plus la même chose. Ce sont des salles ripollinées, dans un bâtiment administratif, très, très correct. Alors que, effectivement, avant, pourquoi le musée du crime ? Parce que vous côtoyez dans cet escalier fameux du 36 qui est des Orfèvres, vous côtoyez des assassins et vous avez un musée qui était centré en partie sur l'histoire de la police, prolongement des archives, et puis il y avait une pièce spéciale consacrée vraiment au crime où vous aviez, que je crois que vous ne verrez plus, un couperet de guillotine ayant vraiment servi, une épée de bourreau, et parce qu'avant la guillotine, on coupait les têtes avec une épée, et l'on trouvait des relations par rapport à des affaires criminelles, la barbe à friser, le fer à friser la barbe de Landru, ou encore le viseur par lequel le docteur Petiot regardait l'agonie de ses victimes que ma mère avait obtenue et donc qu'elle exposait là. Désormais, le musée est devenu plus convenable. Attire-t-il plus de monde ? Je ne sais. La rumeur veut que la nostalgie aidant, peut-être il revienne au 36 quai des Orfèvres. En tout cas,
plus de place.
Désormais plus de place au 36 quai des Orfèvres. Pour l'instant, ne se retrouvent que les fantômes de Georges Simenon ou d'Hitchcock. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, le journal du dimanche a publié une photo représentant Hélène Tullard, la conservatrice, faisant une démonstration avec une petite guillotine à Alfred Hitchcock, qui regarde ça d'un air intéressé. Mais cette époque est révolue.
Pour son cigare, peut-être. Alors, le musée a toutefois une histoire avant celle-ci, c'est celle des archives, et le moins qu'on puisse dire, c'est une histoire mouvementée.
Le musée, effectivement, est lié à l'histoire de la préfecture de police, et donc vous ne pouvez pas échapper à cette histoire de la préfecture de police. Il est incontestable que Paris a toujours été une ville dangereuse. Une ville dangereuse, une ville d'émeutes, de révolution, Étienne Marcel, la Fronde, 1789, 1830, 1848, 1870, etc. Aujourd'hui, c'est très différent, parce que les Gilets jaunes ne sont pas parisiens, alors que les révoltes de l'époque était essentiellement parisienne.
Ce n'était pas encore une ville gentrifiée, comme on dit aujourd'hui.
Et donc, cette ville dangereuse est également une ville criminelle. Il y a la fameuse cour des miracles. Il y a ensuite les quartiers chauds, les quartiers entre la Chouette et le Chourineur, des mystères de Paris. Et c'est une ville insalubre qu'il faut approvisionner. La police est donc appelée à Paris à jouer un rôle peut-être plus important que dans d'autres villes. C'est pourquoi, au Moyen-Âge, il n'y avait que le prévôt de Paris, assisté d'un lieutenant civil et d'un lieutenant criminel qui était véritablement le chef de la police, et le guet. Mais le guet, le chevalier du guet, tout le monde connaît la chanson, cette police n'était pas extrêmement importante et suffisante. Ce qui fait que Louis XIV crée le lieutenant général de police, le lieutenant général de police, dont le premier sera Larigny, qui va d'ailleurs nettoyer Paris de la cour des miracles. Et puis, ce lieutenant général va jouer un rôle important, Sartine, Lenoir, et le dernier, Thiroux de Crône, qui sera balayé le 14 juillet par la Révolution et qui, sentant des picotis autour de son cou, va se sauver sans tenter de rétablir l'ordre. C'est une époque ensuite d'anarchie, c'est-à-dire d'une police dirigée par des départements ou des bureaux, c'est-à-dire une direction collective, jusqu'à ce que Bonaparte décide qu'il y aura à Paris deux préfets. Eh oui, deux préfets que nous avons toujours, un préfet de la Seine et un préfet de police. Pourquoi deux préfets ? Parce qu'il considère que le préfet de la Seine, s'il rassemblait tous les pouvoirs à Paris, deviendra un homme dangereux, c'est-à-dire qu'on ressusciterait Étienne Marcel. On a vu par la suite, d'ailleurs, comment la puissance d'un maire de Paris pouvait être redoutable lorsque nous avons vu M. Jacques Chirac se dresser devant M. Giscard d'Estaing lors de fameuses élections municipales. En sorte, le maire de Paris pouvait devenir le rival du roi ou du président de la République. Donc, Napoléon, dans sa sagesse, coupe cette administration en deux. Au préfet de la Seine, tout ce qui est l'urbanisme, et tout ce qui est sécurité, au préfet de police. La division des attributions peut poser quelquefois, à l'époque, de difficultés inattendues. Je vous en prendrai un exemple, et vous allez voir qu'il débouche sur de graves problèmes. En effet, les prisons à Paris sont partagées entre le préfet de police et le préfet de la Seine, à l'époque. Les bâtiments, qui relèvent de l'urbanisme, sont attribués au préfet de la Seine. Le personnel, c'est-à-dire au fond de la police, est réservé au préfet de police. C'est clair, c'est net, les bâtiments, les hommes. Oui, mais les gardiens de prison se font assister de chiens, parce que ça tient mieux en respect les détenus. Le chien relève-t-il du préfet de la Seine ou du préfet de police ? Ce problème va déclencher entre les deux préfets les pires difficultés. Le préfet de la Seine veut le mettre dans son budget, tandis que le préfet de police considère que c'est du personnel. Vous voyez que ça débouche sur un problème métaphysique. Les chiens ont-ils une âme ? Rappelez-vous la Descartes Malebranche, la théorie des animaux-machines. L'affaire est si grave, en définitive, qu'elle monte au Conseil d'État. C'est au Conseil d'État de trancher pour savoir, au fond, si les chiens ont une âme ou n'en ont pas. Je marque un temps d'arrêt. Vous attendez la réponse. Vous ne l'aurez pas parce que les archives du Conseil d'État ont brûlé.
Elles aussi.
Oui, elles aussi. Comme d'ailleurs, nous allons voir les archives de la préfecture de police. Et donc, nous ne savons pas comment le Conseil d'État a tranché ce problème. Donc, vous avez maintenant à Paris une préfecture de police qui est divisée dans ses bureaux entre trois directions. La première, c'est la police politique, ce que nous appellerions aujourd'hui des renseignements généraux, et qui est dirigé par un homme à poigne qui va traverser presque tout l'Empire, qui s'appelle Bertrand. Et sa devise est, comme policier, on ne se trompe ici que quand on remet en liberté. La deuxième direction, c'est celle de ce que nous appellerions aujourd'hui la police judiciaire. Elle est confiée à Henri. Et c'est Henri qui, en 1811, va inventer, en quelque sorte, l'appel, la police de sûreté, avec l'appel à des bagnards. C'est lui qui invente Vidocq. Les débuts de Vidocq se situent sous Napoléon et vont se poursuivre jusqu'en 1830 et au-delà. Et même, il mourra sous le Second Empire. Quant à la troisième direction, c'est celle de l'approvisionnement qui est capitale et de la salubrité. Il y a des commissaires, un par quartier, donc 48 commissaires de police. Il y a sous leurs ordres des inspecteurs de police et des officiers de paix qui sont pourvus d'un petit bâton blanc, et lorsqu'ils procèdent à une arrestation, ils vous touchent, et Il déclare « force à la loi ». À partir du moment où vous avez été touché par le bâton blanc de l'officier de paix, vous devez le suivre. Alors, en réalité, l'effet n'est pas toujours probant. Il y a ensuite une sorte de police municipale, mais il n'y a pas à l'époque, et c'est assez frappant, il n'y a pas un corps de police active, c'est-à-dire une armée qui serait sous les ordres du préfet. Il n'y a pas encore ce que nous connaissons aujourd'hui avec les gardiens de la paix et les CRS, ça va arriver beaucoup plus tard. Voilà donc cette préfecture de police qui se met en place et qui va durer, avec quand même un certain nombre de difficultés, va durer d'abord jusqu'en 1814, où elle est supprimée au retour du roi, car la préfecture de police évoquait de mauvais souvenirs, et j'ai oublié de dire qu'elle était, mais nous limitons à la préfecture de police, sous l'autorité d'un ministre de la police, et que ce ministre de la police, entre 1800 et 1811, c'était Joseph Fouché, qui a inventé la police moderne. Et il y a une rivalité qui s'établit très vite entre le préfet de police et le ministre de la police, encouragé par Napoléon. Vous voyez, Napoléon s'efforce toujours de diviser. Il y a un préfet de la Seine, il y a un préfet de police, il y a un préfet de police et un ministre de la police. Il s'agit toujours que ces fonctionnaires se neutralisent de façon à ce que l'empereur ait le dernier mot. Donc, en 1814, au retour du roi, la préfecture de police comme le ministère de la police sont supprimés, mais Napoléon, au retour de l'île d'Elbe, ressuscite la préfecture de police et le ministère de la police générale. Louis XVIII, revenant, conserve les deux institutions, mais va très vite se débarrasser du ministre de la police. Les attributions du ministre de la police passeront au ministre de l'Intérieur. En revanche, la préfecture de police continue son chemin. Elle continue son chemin et elle n'est supprimée que brièvement par la révolution de 1830, mais ensuite elle reviendra et par conséquent la préfecture de police est parvenue jusqu'à nous. C'est donc dire la richesse de son histoire. Je n'ai pas énuméré les différents préfets, nous n'avons pas le temps de montrer.
Il y a des portraits de certains d'entre eux.
Oui, nous allons y revenir. Donc, cette histoire épouse. Comme en plus le préfet de police joue le rôle de l'héritier du lieutenant général de police, cette histoire de la police commence au moins avec la Reynie pour aboutir à l'actuel préfet de police, celui qui vient d'arriver. Donc c'est une histoire très longue. La préfecture de police a obtenu de conserver ses archives. Les archives de la lieutenant général se trouvaient en partie à la Bastille. Et donc, quand la Bastille a été prise, une partie de ces archives a été détruite, mais il y en avait une autre partie qui était conservée par le lieutenant général. Ensuite, les archives de la police de la Révolution ont été conservées, les papiers des commissaires de police, et puis ensuite est arrivée la préfecture de police. La police ne peut qu'avoir d'abondantes archives, car effectivement, elle procède avec des registres. À l'époque, ce sont des registres, ce ne sont pas des fiches. Mais il y a besoin de fichiers. La police créera toujours des fichiers, dont certains ont mauvaise réputation, certes, mais ces fichiers ont été extrêmement utiles pour les rechercher. Sous Napoléon, par exemple, la topographie chouane permet d'identifier Cadoudal et d'autres chouans qui circulent dans Paris. Abondance d'archives qui vont devenir encore plus abondantes avec la Troisième et la Quatrième République, d'autant que, et jusqu'à très peu de temps, la préfecture de police obtient le droit de conserver ses archives qui ne sont pas versées aux archives nationales. Il y a trois institutions qui en bénéficient de cette exemption, c'est le ministère de la guerre, le ministère des Affaires étrangères et la préfecture de police. Donc, archives abondantes. Mais je marque un temps d'arrêt, hélas. Archives qui auraient dû être abondantes. Mais en 1871, au moment de la commune, la préfecture de police a été incendiée et donc une très grande partie de ces archives ont péri. Une autre partie avait été mise en sécurité dans des caves de la préfecture et notamment dans une espèce de caveau où les pièces essentielles se trouvaient lorsque le Louvre a voulu mettre également en sécurité et à la préfecture de police la Vénus de Milo. Et donc la Vénus de Milo a pris la place, pas énorme, mais a pris la place de certains registres de police qui n'ont pas pu être conservés, qui ont été détruits.
Des milliers de cartons, dites-vous.
Des milliers de cartons ont été détruits avec leurs secrets. Mais, il y a eu des archivistes. Et certains ont publié des documents. Notamment, ces archives ont été conservées à partir de 1815 par un personnage très curieux qui s'appelait Peuchet. Peuchet, qui était un avocat, un économiste, qui avait joué un rôle dans la police de la Révolution, qui s'est retrouvé employé au ministère de la Police Générale, a été en 1830 nommé aux archives de la préfecture de police. Et il a laissé 5 volumes de mémoires, mémoires tirées des archives de la police, où il raconte aussi bien l'affaire Mallet que des affaires qui remontaient à l'Ancien Régime. Et là, c'est très intéressant parce qu'on n'a souvent pas la documentation. Et il raconte notamment une histoire étonnante d'un bon jeune homme, très bien, qui s'appelait Pinault, et qui va faire un mariage avec une jeune et jolie et riche héritière. Et ses amis le jalousent et disent « c'est pas possible, quelle chance il a, parce que bon... » Et donc, ils disent « on va s'amuser, on va... » Il y a le jour du mariage, avant le jour du mariage, on va lui monter une plaisanterie. « Je vais, » dit l'un des copain, je vais le dénoncer à la police, nous sommes en 1807, je vais le dénoncer à la police comme agent de l'Angleterre. Alors il va être arrêté et puis le mariage donc ne pourra pas avoir lieu. Quand il aura lieu, ce sera beaucoup plus tard. Donc la plaisanterie a lieu, il dénonce le malheureux Picot à la police. C'est sous son Rovigo qui le fait arrêter et qui, comme agent d'Angleterre, et il est emprisonné au secret. Et on ne sait plus ce qu'il devient. 7 ans passent et il sortira de prison seulement en 1814. Il sort de prison en 1814 et il apprend à ce moment-là que la belle, jeune et riche héritière, qui n'est plus jeune, qui est encore peut-être assez belle, mais qui est toujours héritière, a épousé celui qui l'avait dénoncé. Il va donc découvrir progressivement la vérité. Or, il se trouve, vous commencez à deviner un peu l'intrigue, il se trouve qu'en prison, il s'était retrouvé avec un riche abbé qui avait des fonds, notamment à la banque de Hambourg, et qui, comme il l'aide un peu, l'abbé, avant de mourir, lui laisse tout le secret de sa fortune, c'est-à-dire les clés des comptes à la banque de Hambourg, à la banque de Londres, etc. Et comme lui-même était au secret, Picot, il était au secret sous un autre nom, il va être libéré sous ce nom. On a complètement oublié le nom de Picot, le nom d'origine. Donc il est libéré, il est riche, et il découvre la trahison. Donc il va s'en venger. C'est évidemment, je vous laisse le soin.
Le comte de Monte Cristo.
Évidemment. C'est donc Alexandre Dumas qui a puisé cette affaire dans les mémoires tirées des archives de la police de Peuchet. Le problème, c'est que cette histoire, nous ne pouvons pas dire si Peuchet l'a inventée, auquel cas il avait un certain génie, ou si elle est vraie, on n'en trouve plus trace, puisque les archives...
Parce que ne sont pas des sources de première main,
oui,
sont que sa propre analyse des archives. Il me semble d'ailleurs que vous interrogez, même sa participation, on n'est pas sûr qu'il en soit l'auteur. C'est,
oui, Peuchet, c'est oui. Oui. Peuchet, oui. Alors, c'est Levasseur, l'éditeur, qui a édité pas mal de Faux Mémoires et autres. Ouais. Et donc, parce que c'est l'époque où on peut revenir sur le problème de Fouché. Personnellement, je suis convaincu que les mémoires de Fouché ne sont pas authentiques, mais des gens comme Michel Vauvel, comme Edoui Plenel l'affirment. Pour moi, qui ai beaucoup travaillé, Varesquiel est très hésitant. Quand on a beaucoup travaillé sur Fouché, on ne reconnaît pas tout à fait le style. De toute façon, nous n'avons pas le manuscrit. C'est extrêmement curieux. Et nous avons simplement une preuve, un reçu, qu'un certain Beauchamp, qui avait été agent au ministère de la Police Générale et qui donc a vu beaucoup de documents, a reçu, il y a un reçu où on dit qu'il a collaboré, en quelque sorte, à ses archives, à ses mémoires, de Fouché. Donc, il est probable que c'est Beauchamp et quelques... À l'époque, on disait teinturier, on ne disait pas nègre. Donc, quelques teinturiers qui ont collaboré à ces mémoires de Fouché. En tout cas, les mémoires de Peuchet, nous ne savons pas, mais c'est... ça n'a jamais été réédité depuis. J'en possède une édition et ça se lit comme un roman policier. Et s'il y a certains de nos auditeurs, et il y en a sûrement, qui ont écrit des romans policiers et qui sont à court d'idées, ils trouveront, comme Alexandre Dumas, dans les mémoires tirées des archives de la police, des idées de romans. Il y en a énormément.
Alors du reste, le musée lui-même a une histoire extrêmement romanesque. Et on va peut-être reprendre le fil de son histoire, mais je voudrais qu'on évoque notamment la personnalité du malheureux là-bas, dont le travail a été mis à sac, justement.
Donc, effectivement... Peuchet, oui, se retire, et à ce moment-là, il est remplacé par, après 5 ou 6 conservateurs, si je puis dire, on ne l'appelait pas conservateur à l'époque, il est remplacé par Labat. Et Labat, lui, va trouver un désordre indescriptible, et donc va essayer de remettre de l'ordre, et va, jusqu'en 1870, où ses archives vont brûler, c'est lui le père, véritablement, qui fait le catalogue des archives. Il y a un catalogue qui est fait et qui nous permet de voir souvent l'étendue des pertes. Donc c'est là-bas qu'il va notamment regrouper tous les registres d'écrou. Ce qu'il y a de plus intéressant dans ces archives, en dehors des rapports de police ou autres, et qui ont été, eux, sauvés, ce sont les registres d'écrou. C'est extrêmement émouvant de voir, par exemple, le registre d'écrou de Ravaillac. Nous n'avons pas mis dans le livre Ravaillac, j'ai préféré en prendre un autre, Chastel, un autre régicide, mais il y a aussi son registre d'écrou. Et il y a les registres d'écrou de Danton, pas de Robespierre, mais de, parce qu'il n'a pas été écroué, il y a le registre d'écrou de Marie-Antoinette, de Louis XVI. Enfin, Louis XVI n'est pas écroué, mais il y a le dernier procès-verbal de son exécution, etc. Ces documents existent encore et sont mis en valeur au musée, car les archives ont évidemment précédé le musée et le musée va apparaître beaucoup plus tard. Donc, nous passons des archives au musée. Le musée a été créé par Louis Lépine, probablement le préfet de police le plus connu, comme ce ne serait qu'à cause du concours Lépine, à cause de cette silhouette barbichue, petit, avec toujours une canne, dont il servait d'ailleurs pour frapper les manifestants. Lui, il n'hésitait pas et n'avait pas d'ennui. Et donc, Lépine va demander à deux personnes de son cabinet, Ray et Ferron, qui avait écrit une histoire des gardiens de la paix très documentée, qu'on utilise encore aujourd'hui, que moi j'ai utilisé pour ma thèse, très très documentée, à partir d'ailleurs des collections de la préfecture de police. Et donc c'est à partir de ces collections que Ray et Ferron vont mettre en place une sorte de musée. Mais Lépine n'y croit pas beaucoup. Nous ne connaissons pas encore les grands principes de la muséologie, etc., de ce qui se passe aujourd'hui, où il y a des règles. Et donc, c'est un peu entassé dans des soupentes, précisément quai des Orfèvres, où sont les bâtiments de la préfecture de police. Car depuis depuis sa création, elle s'était installée dans l'hôtel des premiers présidents du Parlement, qui était rue de Jérusalem, La rue Jerusalem n'existe plus. C'était une rue qui donnait précisément sur le quai des Orfèvres. Donc c'est là, jusqu'en 1871, qu'est le cœur de la préfecture de police. Après l'incendie, la préfecture de police, tout en conservant des bâtiments, notamment le 36 quai des Orfèvres, va aller dans la caserne de la cité qui était prévue pour la garde républicaine. Mais finalement, c'est la police qui aura le dernier mot. Et donc, la préfecture de police est actuellement installée encore, caserne, ce qu'on appelle caserne de la cité, pas très loin, très loin de Notre-Dame. Donc...
Ne subsistant donc au quai des Orfèvres que la police judiciaire.
Ne subsistant que la police judiciaire et la mondaine. Voilà maintenant que la préfecture de la police judiciaire va donc coexister avec le musée de la préfecture de police qui, lui, ne déménagera pas, sera sous ses soupentes. Il ne déménage pas, mais l'idée est toujours que bon, c'est quand même un entassement, c'est quelque chose...
C'est une cave de Moulinsart, quoi.
Oui, oui, c'est ça. Et donc, effectivement, on considère que ce n'est pas vraiment un musée, et ce n'est qu'à partir donc de 1944 et surtout 1952 que Hélène Tullard va en faire véritablement un musée et va attirer un certain nombre de personnalités qui elles-mêmes voudront également le voir. Alors ça ira du comte de Paris, à, je ne sais pas, Édith Piaf, enfin tout ce que vous voulez. Le public, c'est beaucoup plus difficile d'y accéder à l'époque parce qu'il faut traverser la police judiciaire et donc il y a quand même des contrôles de police. Donc le musée est là. Alors maintenant on peut s'interroger sur le contenu de ce musée.
Oui, et aussi, oui, très bien, le contenu.
Et à partir du contenu de ce musée, voir comment, pour le faire connaître pas tellement à l'extérieur que pour le personnel, car nous sommes en 1947-48, combien de gardiens de la paix savent qu'il y a un musée de la préfecture de police? Combien ont-ils entendu parler de l'Arény, de Fouché, du premier préfet de police Dubois? Je ne parle pas de Bertrand, que je vous ai énuméré, du chef de la brigade des mœurs qui s'appelait Bouche Sèche déjà, non, qui va devenir célèbre, mais avec un autre personnage. Il y a le chansonnier Pisse, etc. On ne connaît pas le personnel de la préfecture de police ne connaît pas l'histoire de la police et le musée de la préfecture de police n'est pas caserne de la cité, il est loin. Donc, ce que va faire ma mère, c'est de publier dans une revue Vigilate, publiée par la Fondation Louis Lépine, qui existe encore, et qui m'a autorisé d'ailleurs à reproduire ses articles, donc je l'en remercie, la Fondation Louis Lépine publiait une revue Vigilate où l'on trouvait des articles aussi bien de Simenon que de Jean Dutour, que de d'autres d'écrivains réputés.
Et, Paul Benoît.
Oui, mais tout le monde se précipitait parce que le gros avantage, c'est que si vous aviez écrit dans la revue Vigilate, si vous aviez une contravention, elle était automatiquement classée. Donc, il y avait des petits avantages. Ce qui fait que le générique de cette revue est particulièrement brillant. Et ma mère prenait chaque numéro, soit une gravure, soit un objet, soit un épisode inspiré par une pièce des collections du musée de la préfecture de police. Et cela donne un ensemble imposant, mais je ne pouvais pas tout publier, un ensemble imposant que j'ai rassemblé en répartissant cela entre l'histoire même de la préfecture de police, d'une part, et d'autre part, des grandes affaires criminelles dont il existait des traces, des documents, des illustrations au musée de la préfecture de police.
qui sont autant d'éclairages sur, sur l'époque, mais qui peuvent mettre en, en perspective des événements ou des faits plus, plus actuels. Est-ce que vous voulez bien que nous, nous
oui.
en évoquions quelques-uns?
Nous avons
finalement...
quelques-uns, de, nous allons, parce que l'intérêt du livre, évidemment, c'est non seulement qu'à travers ce livre, il y a l'histoire de la police, mais il n'y a pas énormément d'histoire de la police à l'heure actuelle, et j'avais fait une histoire et dictionnaire de la police dans la collection bouquins, mais depuis, il n'y a pas eu grand-chose, sauf des histoires. J'ai eu quelques histoires de la police judiciaire qui fascinent toujours, mais ces histoires de la police judiciaire oublient la plupart, le musée lui-même, qui est la source de ces histoires. Et donc, il y a énormément d'affaires criminelles qui ont été évoquées par ma mère. Alors, nous pouvons retenir quelques-unes.
Oui, ou quelques événements, puisque nous parlons de la préfecture de police. On peut peut-être parler déjà du siège de la préfecture de,
oui.
De police. 1893.
Oui, 1893, siège... Paris, on a l'air de découvrir aujourd'hui qu'il y a des manifestations, qu'on casse des vitrines, qu'il y a presque de l'esquisse, oh, bien modeste par rapport là, à ce qui s'était fait avant, de barricades que policiers, manifestants s'affrontent. Mais cela a toujours été, si vous suivez l'histoire de Paris, vous vous apercevez que Paris est une ville révolutionnaire. Et donc, et souvent pour des incidents tout à fait secondaires. Alors vous évoquiez 1893, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a les traditionnels bals des Quatre-Arts, où donc on promène des jeunes demoiselles plus ou moins déshabillées, et voilà que cela déclenche des protestations, notamment de la part d'un sénateur ou député, je ne me doute pas, sénateur Béranger, surnommé le Père la Pudeur, qui proteste. Alors on va, les étudiants vont chahuter sous les fenêtres de ce brave Béranger, et de là, l'agitation grandit, parce qu'il y a des heurts, parce que dès qu'il y a des heurts, on comprend très bien l'attitude de la police, moins vous faites de casse, moins vous risquez d'avoir des histoires. Mais à l'époque, on était moins, on se retenait moins qu'aujourd'hui, et donc, il y a des incidents tels que la préfecture de police elle-même est assiégée. Et il faut que le préfet de police donne des ordres pour la faire dégager. Il y a eu également un attentat contre le préfet de police lui-même, car le préfet de police, à l'époque, sans doute aujourd'hui encore, est à la tête de ses troupes. Et s'est haïté comme un général. Et Lépine était un personnage avec sa canne qui se met en tête de ses gardiens de la paix qui vont charger les manifestants, et il va être blessé. J'ai oublié de dire que...
C'est en 1906, donc,
oui.
Avec... suite à des événements qui s'étaient produits en, en Espagne.
Oui, voilà. C'est un anarchiste espagnol, Ferrer, qui a été arrêté en Espagne et a été, malgré les protestations déjà... Vous voyez, rien n'est moderne. Nous venons de voir avec un anarchiste italien tout récent qui vient d'être arrêté. Vous trouvez
la
même chose.
En gros, l'affaire Battisti, c'est incroyable.
Oui, voilà. C'est exactement... Si vous lisez les articles d'Hélène Tula, vous apercevrez que rien n'a changé sous le soleil de l'émeute, de la barricade, des protestations des intellectuels en faveur d'un, d'un anarchiste. Tout est d'époque. Alors, bien entendu, c'est l'intérêt, mais il y a aussi des affaires criminelles intéressantes, peu connues. Par exemple, une très jolie affaire qui pourrait faire un roman, c'est l'aveugle du bonheur. Et là, vous trouvez d'ailleurs, vous allez voir que c'est aussi moderne, c'est encore le, la loterie qui joue. À Paris, effectivement, la loterie avait été rétablie dès le directoire parce que ça rapporte de l'argent à l'État. Et il y a toujours des gens qui veulent parier. Et donc, la loterie était fondée sur des bons numéros qui vous assurent de l'argent. Voilà qu'un certain Béranger, qui avait été artificier, et il avait été victime d'une explosion qui l'avait rendu aveugle, se rend compte que, parce qu'il y a une médiocre pension, qu'après tout, on dit toujours que ce sont les aveugles qui assurent la fortune des gens. Et donc, il imagine une roue, une grande roue, avec des poches et des numéros, des papiers contenant des numéros, et il s'installe sur le Pont-Neuf, donc il n'est pas très loin d'ici, il s'installe sur le Pont-Neuf avec sa roue, il fait tourner la roue, et, moyennant une certaine somme, les gens tirent un papier, ce qui doit être le numéro qui doit gagner. Je ne sais pas si vraiment, la fortune rend aveugle, disons, je ne sais pas si le hasard était favorable à Béranger, ou si c'est tout à fait, il avait vraiment un don. En tout cas, il fait très rapidement fortune, on se précipite pour aller dans cette roue et jouer ensuite les numéros tirés à la loterie. La fortune vient, il est aidé, parce qu'il est aveugle, pour trimballer sa charrette avec la roue. Il est aidé d'une jeune et accorte jeune fille, qui ne voit pas d'ailleurs, mais et également d'un jeune homme, parce qu'il faut monter la roue, etc. Progressivement, il semble que cet aveugle, surnommé l'aveugle du bonheur, puisqu'il assurait le bonheur, la fortune est aveugle, je vous rappelle. Donc, découvre que cette jeune fille est plaisante, il commence à en être amoureux, il est célibataire, et il l'épouserait bien, il en ferait bien sa femme. Mais la demoiselle en question est plutôt tournée vers le jeune homme qui traîne la charrette, c'est tout à fait normal. Et donc, s'ébauche une sorte d'idylle entre les jeunes gens aux dépens de l'aveugle. Or, un soir où le bon jeune homme, dont la mère est aveugle aussi, et donc qui est logé au 15-20, rentrant dans sa chambre, découvre la fumée qui s'échappe de la cheminée où était en train de brûler une bûche. Alors il appelle au secours, on retire la bûche et on s'aperçoit que la bûche était creuse et qu'il y avait dans la bûche de la poudre. Donc attentat. On s'apprêtait à faire sauter en quelque sorte le bon jeune homme par une explosion de poudre. Le jeune homme est lié à l'aveugle du bonheur, lui-même ancien artificier, jaloux de voir ce jeune homme lui voler la jeune fille qu'il assistait. Donc, l'évidence est que c'est l'aveugle du bonheur qui a mis cette bûche, est artificier, pour tuer le jeune homme. Il est donc arrêté. Je rappelle que le jeune homme n'a rien eu, qu'il ne s'est rien passé. Il n'en pèse pas moins que l'aveugle du bonheur est jugé et, malgré sa cécité, condamné à mort. Il n'a pas tué, il avait l'alibi d'être aveugle, donc il prétend lui-même qu'il n'a jamais fait ça, et en tout cas, il est condamné à mort. Et le jour de son exécution, il est conduit à l'échafaud dans une charrette. Il ne voit pas d'ailleurs la guillotine, alors que ce qui est toujours très impressionnant quand on arrive près de l'échafaud, c'est qu'on voit au loin la silhouette de la guillotine. Donc, il ne voit pas, il reste impassible. Il monte à l'échafaud et au moment où on va le faire basculer avec la trappe, la planche pour le guillotiner, arrive un messager hors d'haleine qui dit « Mais on ne peut pas l'exécuter parce que il n'y a pas eu de recours en grâce. L'empereur qui se fait couronner roi en Italie n'a pas reçu de demande de grâce, donc il faut sursoir à l'exécution. » Donc, alors qu'il y avait un monde fou, parce que voir guillotiner un aveugle, en plus, ça, c'est un spectacle un peu, peut-être plus piquant que d'habitude. Et donc, on ramène l'aveugle dans sa prison. Et puis, que s'est-il passé? Napoléon a-t-il estimé qu'il n'y avait pas de grâce à avoir, ce qui est probable, car il avait mauvais souvenir de l'explosion de la machine infernale. Et donc, on remène l'aveugle, qui ne voit toujours pas la guillotine, qui ne comprend toujours pas ce qui se passe, et cette fois, il est guillotiné. C'est un fait divers qui a suscité dans Paris ce qu'on appelait des rengaines, des lithographies, des gravures de toutes sortes. C'est le crime, c'est probablement l'affaire criminelle la plus connue pour l'époque napoléonienne. Alors, bien entendu, dans l'ouvrage, j'ai réuni d'autres articles sur d'autres crimes, sur d'autres extravagances, en prenant essentiellement l'aveugle du bonheur, on ne connaît peu. Il n'y a pas eu pratiquement d'ouvrages d'histoire criminelle le recensant, mais j'en ai choisi d'autres, effectivement, qui Chine, le crime du Pec, par exemple, ou, et qui sont des histoires criminelles. J'ouvre une parenthèse, d'ailleurs, pour dire qu'en dehors de ce que proposent les archives et le musée de la préfecture de police, il y a, pour les amateurs de romans policiers, il y a ce qui ne paraît plus aujourd'hui, la Gazette des tribunaux. La Gazette des tribunaux recensait tous les procès et vous avez toutes les affaires criminelles possibles et imaginables qui passent par la Gazette des tribunaux. À la préfecture de police, il n'y a que les affaires parisiennes. Mais certaines peuvent toujours fasciner.
Certaines affaires et certains portraits, parce qu'on pourrait croire que le pittoresque se niche uniquement dans la partie consacrée au crime, mais les figures de policiers ou de préfets peuvent être extrêmement aventureuses aussi. Je pense notamment à la carrière que, vous dites, que votre maman disait mouvementée du commissaire Dossonville.
Oui.
Alors là, c'est incroyable. Ça pourrait être aussi un roman.
Oui, c'est.
Également de Dumas.
C'est un agent double ou triple. Alors vous avez aussi.
Qui traverse tous les
régimes. Oui, il traverse tous les régimes, étant plutôt royaliste et en étant. Ayant animé une contre-police sous le consulat, puis continuant ensuite après. Vous avez.
Exilé à Cayenne,
oui,
s'enfuyant en pirogue.
Oui.
Reprenant du service à Londres, repassant en France et finissant de mourant de sa belle mort.
Oui, ben oui, mais c'est le type de l'agent secret. C'est James Bond. Vous voyez qu'on trouve, vous disiez vous-même que ce livre, au fond, aurait pu être, les histoires pouvaient être d'aujourd'hui. Vous l'avez avec Dossonville, ses agents secrets. Et vous avez aussi les préfets de police. J'ai retenu dans ces articles, les préfets de police éphémères. Il y en a qui sont préfets de police très peu. Le malheureux qui est entraîné dans l'affaire Mallet comme étudiant en droit et à qui Mallet dit « tu vas devenir préfet de police », il suit le mouvement. Il est à peine installé à la préfecture de police qu'il est arrêté et fusillé sans avoir jamais rien compris.
Et où cet autre qui est nommé préfet pas par le roi, alors même que Napoléon se trouve déjà presque à Autun.
Oui, oui, c'est Bourrienne, oui. Bourrienne, qui était l'ancien secrétaire de Napoléon, qui sera aussi un éphémère préfet. Réal sera préfet en sursuccesseur, sera préfet pendant les 100 jours, à peine. Et donc, la liste des préfets comporte des gens qui passent très vite. Certains, alors c'est ce qu'on appelle, après 1830, les petits préfets. Il y en a qui font une semaine, il y en a qui font un mois. Le poste de préfet de police, on vient d'ailleurs de le constater, malheureusement pour son titulaire, est un poste éjectable, très dangereux. C'est ce qui fait du préfet de police un homme révocable. Car on peut révoquer un préfet. Le préfet n'a aucune garantie. Et dans une préfecture, une femme de ménage casse un vase de Sèvres, on ne peut pas la renvoyer. Tous les syndicats et autres protesteraient. En revanche, le préfet n'a rien fait ou très peu, mais il peut être évoqué sans... Le poste de préfet n'assure aucune garantie. C'est l'inconvénient, ou l'avantage, peut-être...
L'épée obéit à la robe.
Oui.
Pour conclure sur l'ouvrage, l'avenir du musée,
alors,
je suis sûr qu'il pourrait retrouver le 36.
Je pense, ce musée, mais même s'il revient au 36, ce ne sera plus la même chose. Je vous assure, j'ai moi-même, j'allais voir ma mère conservatrice, et j'ai mis une photo d'ailleurs dans le livre de son bureau, on la voit à son bureau, il fallait me donner un peu de consistance, sinon ça aurait été une sorte de fantôme. Et donc, j'allais la voir, beaucoup de chercheurs ont travaillé dans les archives. C'était une ambiance extraordinaire parce que c'est pour ça que les gens n'y allaient pas. C'était au milieu des affaires policières. Vous croisiez des assassins. Vous les aviez au musée en gravure, mais vous aviez les futurs clients du musée de la Prétolice que vous croisiez avec des menottes, avec des inspecteurs les entourant et des journalistes, etc. C'était une ambiance que l'on ne retrouvera plus si l'on s'installe dans ce 36 quai des Orfèvres et signe n'y a plus de police, s'il n'y a plus cette activité, il faut dire que la police judiciaire, c'était enfin, le fer de lance de la préfecture de police. C'est là où ont été les grandes affaires, c'est là que sont situés tous les grands romans policiers de Simenon à Pierre Véry. Et donc, ce musée du crime, eh bien, il ne sera plus maintenant qu'un souvenir et resteront les photos, j'en ai quelques-unes, d'Hélène Tullard avec James Bond, avec Eddie Constantine et une fameuse, donc, que j'évoquais dans le journal du dimanche où l'on voit, on la voit faisant une démonstration de guillotine devant Hitchcock.
Mais écoutez, il reste donc de ce musée originel des traces littéraires. C'est désormais voilà, un musée imaginaire de papier pour tous ceux qui en ont la nostalgie bien légitime. Et j'invite nos auditeurs à le découvrir donc à travers votre livre et celui d'Hélène Tullard, Le musée du crime, chronique du 36 Quai des Orfèvres. C'est une coédition Maisonneuve et La Rose édition et Hémisphère édition. Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie. Thank you.